Les infos.
À l'international, en Ukraine, attaque massive sur Kiev, une centaine de drones et des missiles utilisés, et plusieurs morts et des quartiers ravagés. Les autorités parlent d'une opération calculée. Quant au climat, 2025 pourrait être la deuxième ou troisième année la plus chaude jamais mesurée, selon l'Organisation météorologique mondiale. On retourne en Suisse cette fois où l'économie est en net recul avec une baisse de 0,5% ce trimestre du PIB en cause des exportations en difficulté. Gaza, la trêve est fragile, le Hamas regagne du terrain et les négociations stagnent. Quant à la diplomatie, l'Afrique du Sud accueillera le prochain G20 axé sur la dette, l'énergie et la coopération.
Fréquence banane. La météo.
Aujourd'hui, le temps sera généralement ensoleillé entre Lausanne et Genève. Quelques bandes de stratus pourront persister le long des préalpes en matinée, avec une limite supérieure autour de 1200 mètres. En plaine, les températures iront de 0 à 3 degrés au réveil, pour atteindre environ 6 degrés cet après-midi. La bise soufflera modérément en début de journée, puis se calmera progressivement. Demain mercredi, le soleil restera présent, mais accompagné de quelques passages nuageux et de bandes brouillard le matin. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera par l'ouest, annonçant quelques précipitations en soirée et dans la nuit, avec une limite pluie-neige autour de 600 mètres, puis s'abaissant jusqu'en plaine. Température de moins degrés le matin et 6 l'après-midi. C'était votre flash info.
Café Kawa, toute la semaine, 7h-8h.
Bonjour à tous les amis, je m'appelle Paul, je serai l'animateur de ce Café Kawa. Il est 7h, nous sommes le mardi 18 novembre 2025 et je suis accompagné de la super équipe de Los Bananas. On va commencer par la technique. Bonjour à toi Valentine, j'espère que tu vas bien et que tu es prête. Magnifique.
Toujours cool. Prête.
trop bien. Charlène.
Bonjour à toutes et à tous. Ouais, moi aussi, je suis prête, hein, pareil.
Réveillée.
Au taquet, ouais.
Prêt pour faire une super chronique.
Prête.
Magnifique, trop cool. Et puis à ma gauche, notre cher Léo, comment ça va?
Salut à tous, ça va super. Très content d'être avec vous ce matin. Ça va être cool.
Bien réveillé. Au taquet aussi.
On est là, hein, en force.
Ok, magnifique, super. On commence tout de suite avec une première musique qui s'appelle Good Morning Judge du groupe 10cc et c'est tout de suite sur Fréquence Banane.
Fréquence Banane, le journal.
Nous commençons ce journal avec les frappes russes massives qui ont lieu sur Kiev. La journée du 14 novembre 2025 a marqué un tournant. En effet, la capitale Kiev a subi un assaut d'une ampleur inédite. 430 drones et 18 missiles ont été lancés par les forces russes, frappant principalement des zones résidentielles. Le président Volodymyr Zelensky a qualifié l'opération de, je cite, « délibérée, calculée et méprisante envers l'humanité ». Les dégâts sont considérables. Immeubles d'habitation détruits, hôpital touché et ambassade d'Azerbaïdjan endommagée. L'attaque a perturbé le système de chauffage de la ville, un point particulièrement préoccupant avec l'arrivée de l'hiver. Sur le plan international, l'Union européenne comme les États-Unis appellent à renforcer la défense aérienne ukrainienne et à alourdir les sanctions contre Moscou. La question se pose sur en quoi ce conflit concerne-t-il la Suisse ? Cette guerre influe la stabilité géopolitique, les prix de l'énergie et plus largement la sécurité du continent européen. Et maintenant le climat, 2025, parmi les années les plus chaudes de l'histoire. Selon l'Organisation météorologique mondiale, 2025 devrait être la deuxième ou troisième année la plus chaude jamais observée. A noter, les 11 dernières années sont déjà considérées comme étant les plus chaudes depuis au moins 176 ans. Les conséquences sont multiples. montée des eaux, fonte accélérée des glaces, catastrophes naturelles plus fréquentes, impact négatif sur les rendements agricoles et mouvements migratoires sans précédent. Et en Suisse, cela signifie davantage de défis pour les régions de montagne, l'eau, les glaciers, le tourisme, mais aussi certaines opportunités autour des technologies vertes et des stratégies d'adaptation. Le climat, en somme toute, n'est pas seulement une question environnementale, c'est un enjeu central pour l'économie, la politique et nos choix de société. Revenons en Suisse, où le PIB du troisième trimestre 2025 a reculé de 0,5% par rapport au précédent. Une baisse en partie liée aux droits de douane américains, allant parfois jusqu'à 39%, qui ont pesé lourd sur nos exportations, notamment dans le secteur chimique et pharmaceutique. Un accord cadre avec Washington devrait cependant ramener ces tarifs à 15% et ouvrir la voie à 200 milliards de dollars d'investissement suisse aux États-Unis d'ici 2028. Le ministre de l'économie Guy Parmelin, a défendu l'accord en affirmant « Nous n'avons pas vendu notre âme au diable ». Pour les auditeurs, qu'est-ce que cela peut signifier ? Une économie suisse encore fragile, mais qui pourrait se redresser grâce au commerce extérieur. Reste à voir si ces investissements se concrétisent et si les relations commerciales Suisse-États-Unis se stabilisent. Dans la bande de Gaza, la situation reste extrêmement délicate. Depuis le cessez-le-feu instauré début octobre, le mouvement Hamas a progressivement repris le contrôle des zones évacuées par l'armée israélienne. Le point de blocage majeur, le désarmement du Hamas, reste encore très flou. De leur côté, les États-Unis envisagent la création d'une zone verte sous contrôle international et israélien. Les Palestiniens seraient, eux, cantonnés à une zone rouge, largement exclue des projets de reconstruction. On termine avec le G20 qui s'apprête à vivre une édition historique. Pour la première fois, le sommet se tiendra en Afrique, le 22 et 23 novembre 2025, à Johannesburg. Le thème de cette édition, solidarité, égalité et durabilité. Au programme dette des pays africains, économie verte et coopération sud-sud. Un sommet à suivre de près car il marque à la fois la montée en puissance du continent africain dans la gouvernance mondiale et des décisions susceptibles d'influencer la Suisse, notamment sur les questions économiques et climatiques. C'était votre journal, merci à tous. On s'écoute tout de suite Push the Limits de Big Arynx. C'était Push the Limits de Big Arynx.
La revue de presse.
Et on passe tout de suite à la revue de presse animée par notre cher chroniqueur Léo. Rebonjour Léo, j'espère que...
Rebonjour, bonjour.
Tu es prêt à nous faire cette magnifique chronique qui, je crois, se portera sur l'actualité musicale.
C'est ça, c'est l'heure de ma revue de presse qui va être plutôt une revue musicale, hein, puisqu'on va parler à ces musiques, clubs et DJ. Voilà, on commence avec la première info. Le producteur et DJ français David Guetta a été réélu numéro 1 mondial des DJ 2025 par la revue DJMag.com. Voilà, pour la cinquième fois dans sa carrière depuis sa rentrée dans le top 100 des DJ mondiaux en 2005. Voilà, donc ça fait quand même 20 ans qu'il est dans le top 100, David Guetta. Écoutez bien cette stat complètement hallucinante, ça fait depuis 2007 quand même qu'il n'est pas descendu du top 10. Voilà, donc David Guetta, hein, il est là, il est toujours dans le top 100 DJ Mag. Cette distinction, elle met quand même en valeur sa capacité à rester pertinent après presque maintenant 3 décennies de carrière. Mais selon moi, elle met quand même en lumière aujourd'hui ce qu'est vraiment la structure du marché des DJ. Les gros noms en fait continuent de dominer le classement, ce qui peut poser certaines questions, hein, pour les nouveaux venus, parce que depuis 2015, écoutez bien les amis, donc maintenant 10 ans, le top 3 il est dominé par 3 noms seulement, dont David Guetta, Martin Garrix et Dimitri Vegas et Like Mike. Donc voilà, est-ce que c'est une récompense plutôt d'image ou une performance réelle? Moi je pense que c'est plutôt une performance marketing surtout. Mais voilà, bravo quand même à David Guetta, hein, faut le reconnaître, parce qu'à son âge, faut savoir qu'il a quand même 58 ans, il continue à nous servir en banger et nous, bah, on kiffe, hein, tout naturellement. Voilà, alors ça me permet d'enchaîner avec la deuxième stat assez surprenante. Voilà, c'est une petite stat assez étonnante dans le monde du DJing. Selon un rapport récent, l'âge moyen des DJ vieillit d'année en année. Voilà, donc en 2025, l'âge moyen des DJ est supérieur à 45 ans. Avec la source hein, digitaltips.com, vous pouvez aller vérifier. Voilà, donc peut-être qu'en 2050, on va se retrouver avec des DJ qui auront 60 ans en moyenne. Hein. Peut-être, moi je vous le dis, on les a sous-estimés, nos sexagénaires. On pensait qu'ils étaient pas capables de faire la fête, mais ils reviennent en force. Et aujourd'hui, regardez, ils dominent le classement DJ Mag et ça, ça fait plaisir. Et moi, je me suis posé la question, les amis, comment ça se fait que nos sexagénaires dominent autant musicalement? Et ben en fait, la réponse, elle est simple. Tous ces gens de cet âge-là, ils ont tous connu une période en fait que nous, on n'a pas connue. C'est la période funk qui définit en fait les bases de la musique en club. Voilà, la funk, elle a marqué la culture du dancefloor avec ses rythmes irrésistibles, ses lignes de basse qui restent aujourd'hui, encore en 2025, la référence, le moteur de l'énergie en club et surtout une des sources principales d'inspiration des DJ de maintenant en fait. Voilà, et moi, tout de suite, je vous propose de revenir aux bases, justement, au fondement de la musique moderne, là où tout a commencé, parce qu'on va s'écouter un bon vieux classique de la funk, c'est Patrice Rushen, Forget Me Nots.
L'info campus.
Et ben voilà, bienvenue dans cet Info Campus. Donc les événements à ne pas louper ces prochaines semaines sur le campus Uni-le-PFL. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 18 novembre et c'est un jour spécial puisqu'aujourd'hui il y a une manifestation contre les coupes budgétaires prévues par le Conseil d'État de Vaud. Donc le départ est prévu à 17h30 de Montbenon avec un 18h une arrivée en direction du château. Donc cette action, elle se veut de lutter du coup contre les coupes budgétaires qui impliqueraient une hausse des taxes universitaires. Et la lutte espère avoir une réponse du Conseil d'État. Toutes les informations supplémentaires sont sur le Instagram @fae-unil. Entre le 17 et le 20 novembre, le campus Unil va se transformer en une énergie entrepreneuriale et créative. Il y aura des conférences, des ateliers, des collaboratifs, des pitchs de projets et des rencontres. Et toutes les informations sont également sur le Instagram @gew-lausanne. Demain, donc le 19 novembre, c'est le moment de venir découvrir comment fonctionne le Vorace, l'épicerie locale et participative située au Vortex. Cette soirée, elle permettra de rencontrer l'équipe et pour mieux comprendre le statut de coopératrice avec des exemples de tâches concrètes et un moment d'échange avec les personnes qui participent déjà au projet. Bon plan, il y a le jus de pomme offert. Alors, entre le 19 et le 21 novembre, dans la salle de spectacle de La Grange, le spectacle « Les corps incorruptibles » d'Aurélia Luchère invite à questionner ce qu'adviennent les corps des défunts et défuntes et porter un regard différent sur la mort et ses rituels. La pièce est dite tendre et poétique. Pour les étudiants et étudiantes, le tarif sera de 10 francs. Jeudi prochain, le 27 novembre, le journal des étudiants et étudiantes L'Auditoire présente la 30e édition du Prix de la Sorge, ce concours d'écriture qui va récompenser les meilleurs écrivains et écrivaines du campus Uni-le-PFL. En thème 2025, on avait « Mettre les voiles ». Donc nous avons la possibilité de venir à la remise des récompenses et participer à un apéro convivial offert par l'association. Vendredi et samedi prochain, donc le 28 et 29 novembre, il y aura Horizon Santé à Amphimax et au Rolex avec l'UNIL, le PFL, le CHUV et Unisanté qui vont s'unir pour un événement dédié à l'innovation et aux grands défis de la santé d'aujourd'hui. Au programme, des conférences, des cafés scientifiques, des ateliers ludiques et des stands découvertes. Voilà, donc ne ratez pas ces événements sur le campus. Et avant de passer à l'agenda plutôt culturel, écoutons Dramatique de Aaron, figure émergente de la pop française féminine.
Qu'est-ce qui se passe en ville ?
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda !
L'agenda ! Et bien voilà, sur ce joli petit tapis qui nous réveille hein, avec ses jolis cris. Donc l'agenda culturel, donc s'il ne faut pas louper à Lausanne et dans les alentours. Actuellement et depuis le 12 novembre jusqu'au 22 novembre, le Montreux Comédie Festival édition 2025 prend sa place à Lausanne. Un événement qui vient donner un élan d'optimisme dans nos courtes journées hivernales. Un festival devenu une institution internationale avec aujourd'hui 5 millions de personnes connectées dans la francophonie. Ce sera au Théâtre de Beaulieu. Vendredi 21 novembre, ce sera la nuit du court-métrage de Lausanne, au cinéma Pathé les Galeries. Ce sera un programme composé de 63 films répartis dans 18 séances. Les films sont diffusés durant toute la nuit, bars et snacks seront sur place et café croissant offert au petit matin pour les spectateurices, encore sur place après la cérémonie de clôture. Entre le 18 et le 30 novembre, le festival Les Créatives aura lieu à Genève. L'objectif, faire la promotion des femmes et des minorités de genre dans les milieux culturels et artistiques. Une programmation diverse, avec de la musique, des forums, des ateliers ou encore des expositions. Entre le 26 et le 30 novembre, le Festival du cinéma jeune public. Cette année, le festival propose des films qui font résistance. Je cite « Ces films rappellent que grandir, c'est aussi apprendre à regarder autrement le monde, les autres et soi-même. » Donc un message d'optimisme. La programmation sera tout public pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Le samedi 22 novembre et le samedi 29 novembre, la ville de Lausanne propose des ateliers pour préparer les fêtes de fin d'année. Des ateliers bricolage, cartes et bougies gratuits sont proposés à la maison de quartier du désert. Plus un atelier couronne de l'Avent éco-responsable à l'établissement horticole de la ville de Lausanne. Pour finir, le retour de la féerie hivernale avec les marchés de Noël. À Lausanne, ce sera du 20 novembre au 31 décembre sur plusieurs lieux différents, que vous pouvez découvrir sur le site beau-noël.ch. Soutenir les artisans locaux, boire un vin chaud ou simplement se balader et profiter de l'animation seront au rendez-vous. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite de faire de belles découvertes culturelles. Et je passe directement à la musique All About Me de Jalen Ngonda.
Et c'était All About Me de Jalen Ngonda. On vous propose de faire un petit débat, une discussion ouverte. Enfin voilà, c'était un peu le sujet que je voulais amener pour cette deuxième partie d'émission sur le droit de manifestation. Alors, moi je suis venu avec cette idée-là parce que, comme tu l'as très très bien rappelé dans ton magnifique Info Campus, aujourd'hui, 18 novembre, c'est une journée importante pour... justement la revendication de certains droits et de certaines idées, notamment étudiantes, par rapport voilà, à un sujet d'actualité assez brûlant. Hein. On l'a vu, on en a parlé la semaine dernière dans notre micropoliste, on a aussi parlé aujourd'hui dans justement ton Info Campus. Pour rappel, en fait, du coup, je fais que reparaphraser ce que tu as dit, mais il y a des mouvements sociaux aujourd'hui, étudiants, avec un appel à la grève, à manifester aussi en fin de journée. Tout ça en réaction avec les différentes coupes budgétaires qui ont eu lieu justement et qui ont été annoncées par le Conseil d'État vaudois. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion finalement de s'interroger, de se poser un peu des questions sur finalement notre rapport avec le droit de manifester. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Quelles sont les conséquences ? Quelle est l'utilité même de le faire ? Est-ce qu'on le fait ? Même. Donc, je voulais juste commencer déjà par une petite question à vous tous. Est-ce que vous êtes déjà allé manifester une fois dans votre vie ? Je sais pas si quelqu'un veut déjà répondre. Charlène, peut-être ?
Allez, je commence. Alors moi, j'ai pas fait beaucoup de manifestations, hormis la Pride. J'étais en Pride lors de mon voyage solo à Toronto. Et pour moi, c'était un événement, c'est un événement hyper significatif et c'était une chouette passerelle entre justement tes convictions et le monde public. Et après, c'est pas forcément une manifestation comme on pourrait l'entendre ou le voir de manière un peu plus revendicative, dans le sens où bien sûr, il y a des droits, etc., qui ont été obtenus grâce au Pride. Mais là, en l'occurrence, c'était plutôt un événement festif, un événement joyeux où on fête justement nos droits. Et typiquement, la manif d'aujourd'hui, en tout cas moi, dans mon imaginaire des manifestations, c'est plutôt comme ce qu'il y a aujourd'hui que je l'imagine. Mais je ne l'ai jamais fait, du coup. Mmh. Ouais, voilà.
Ok, super. Bah, c'est, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où tu fais un peu la distinction entre différents types de manifestations, dans le sens où, bah voilà, toi, tu as déjà vécu voilà, ce genre de manifestation, mais du coup, pour la Pride. Et celle d'aujourd'hui, tu la considères du coup différente dans l'action ou le message, si j'ai bien compris ?
Alors oui, je la considère différente dans le message aussi, effectivement, surtout, puisque bah là, on attend effectivement une réponse du Conseil d'État. Vraiment, on attend une réponse assez rapide, alors qu'une Pride, justement, c'est plutôt sur le long terme. C'est pour montrer que voilà, on existe, on est là, ces catégories de genre existent, ces sexualités existent, on est tous égaux en droit, et c'est tout aussi important. Et je le renie pas du tout. Mais ouais, voilà, ça c'était un peu ma vision de la manifestation. Et j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner pour celle d'aujourd'hui, quoi, de ce soir.
Ouais, effectivement, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de mobilisation. En tout cas, bah, pour rappel, hein, là, tout le campus de l'Université de Lausanne va être bloqué. Les gens vont être un peu empêchés d'aller en cours. La bibliothèque aussi, il me semble, va être fermée. Enfin, voilà. Ça s'annonce être quand même une mobilisation, assez importante.
C'est une mobilisation à l'UNIL et le PFL, ou c'est juste UNIL ?
Alors, selon moi, mon information, ça concerne uniquement l'Université de Lausanne.
D'accord.
Notamment d'ailleurs, les coupes budgétaires aussi annoncées par le Conseil de Vaud concernent uniquement l'Université de Lausanne.
D'accord. Okay.
Donc voilà, le mouvement vient de la FAE. C'est la Fédération des associations des étudiants justement de l'Université de Lausanne, en partenariat entre guillemets avec plusieurs syndicats, dont par exemple Sud, il me semble, le syndicat Sud pour ceux qui connaissent. Et voilà, merci en tout cas beaucoup pour ton petit témoignage et ta vision, ça, c'est hyper intéressant. Valentine, est-ce que tu es déjà allée brandir des pancartes dans la rue, manifester
Alors, moi, ma vision que je fais de la manifestation n'est pas forcément le rapport que j'utilise, que j'en fais en tout cas.
Ok.
Dans le sens où, moi, j'ai toujours eu cette vision de ces personnes qui vont aller, revendiquer une cause. Il y a un peu un côté émotionnel, je trouve, un côté un peu, c'est touchant en fait de voir qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui se réunissent dans un point donné pour vraiment parler d'une cause qui leur tient à cœur. Et donc pour ça, franchement, je suis... à chaque fois que je vois ça, quand même, ça m'émue et puis ça me touche. Après, la première manifestation que j'ai vue, moi, c'était à New York, lorsqu'il y a eu des manifestants qui ont protesté contre l'élection de Trump. C'était en 2014, c'était très marrant.
Toi, du coup, tu étais sur place ?
Moi, j'étais sur place, mais je n'ai pas forcément fait, puisque j'avais quand même 12 ans, je crois, et mes parents, ils ne voulaient pas que je manifeste avec des Américains random. pour dire,
je peux comprendre.
non, pas Trump président, sans dire de gros mots, ben voilà. Et du coup, le rapport que j'en fais, je disais que c'était différent, car moi-même, je n'ai jamais manifesté et c'est pas forcément dans mes projets non plus. Voilà, c'est un rapport différent. Et puis après, je suis complètement pour la cause, si je dois dire mes convictions personnelles. J'aimerais pas payer 4 fois de plus le montant que je paye déjà. Mais sinon, je les soutiens, mais moi, je vais pas aller manifester dans la rue, je n'ai pas en tout cas le courage, on va dire.
Ok, super, merci beaucoup pour ton intervention. Je crois que Charlène, cette intervention.
J'aimerais juste rebondir parce que je trouve hyper intéressant ce que Valentine, tu viens de dire, avec le rôle des émotions, notamment sur ce côté manifestation et ce côté on n'y va pas parce qu'en fait, on a peur des répercussions, on a peur de ce qui va se passer, de ce qui peut se passer. Et là, ça rejoint un peu ce truc de, entre guillemets, passager, passagère, clandestin, clandestine. Dans le sens où il y a pas mal de gens aussi qui aimeraient bénéficier des bénéfices de la manifestation sans en tirer les coûts. Et c'est là où la FAE, je trouve, a été assez pertinente dans son appel à l'action. C'est que au-delà du fait d'être en place sur la manifestation, on pouvait aussi s'inscrire via un Google Docs, juste pour, je prends part effectivement au projet de on veut pas d'augmentation des taxes, etc., mais sans forcément être sur le terrain. Et je trouve que c'était une super manière de combler ce passager, passagère clandestin, clandestine. Et
Ok, ouais, hyper intéressant. J'étais même pas au courant qu'il y avait ce dispositif-là, justement, parce que voilà, on parle d'engagement sur plusieurs points de vue, hein, physique, aller dans la rue, puis même au niveau de son travail et ses occupations, il faut s'y mettre pas mal de choses de côté pour faire exercer ce droit-là. Donc oui, ça implique justement pas mal d'engagement. Et en parlant d'engagement, notre ami Léo, est-ce que toi, tu es déjà allé... Est-ce que tu es déjà allé manifester déjà?
Alors non, pas du tout.
Okay.
voilà, moi je suis une personne assez pantouflarde. Je préfère rester chez moi. Mais c'est vrai que je suis assez reconnaissant des manifestants, les personnes qui défilent dans la rue, parce que c'est vrai qu'il faut faire connaître, valoir nos droits en tant que nous, étudiants. C'est vrai que c'est intéressant de finalement, donner cette vision que on a des étudiants aujourd'hui. Il faut savoir que nous, les étudiants, on taffe comme des oufs, en fait. Et faire reconnaître ça dans la rue, c'est incroyable, quoi. Donc moi, je soutiens le mouvement à l'UNIL en particulier, parce que c'est vrai que aujourd'hui, les étudiants, on taffe comme des oufs, et c'est bien de faire reconnaître ça dans la rue.
Super, magnifique Léo. Ça me permet un peu de rebondir sur le fait que on se pose pas souvent vraiment la question ce que c'est que de manifester et pourquoi est-ce qu'on le fait. Dans le sens où, bah, comme tu l'as un petit peu introduit, Charlène, c'est un outil qui est démocratique à la base. C'est-à-dire que voilà, il y a une volonté de faire exister une cause, de la faire valoir dans l'espace public, de l'occuper via une manifestation, c'est le cas de le dire. Et je voulais justement un peu faire un petit tour de table, vous poser un peu la question. Est-ce que selon vous, le fait d'aller manifester, on a déjà un petit peu abordé le sujet, est-ce que ça a une réelle utilité publique, politique? Est-ce que ça a une vraie conséquence? Alors au-delà le fait de se montrer, de faire exister une cause le temps d'une journée, est-ce que voilà, selon vous, ça a des conséquences? Quelles sont les conséquences? Est-ce que, en fait, finalement, la question plus globale qu'on peut se poser, est-ce encore utile aujourd'hui d'aller manifester? En tout cas, en Suisse. Je ne sais pas si quelqu'un veut déjà répondre à cette grande question. Charlène
ou Valentine.
Ou Valentine, peu importe. Commençons avec Charlène, let's go.
Je me lance, puisque ça m'a titillé ce que tu viens de dire. Puisque tu dis au-delà de visibiliser la cause, mais je pense que c'est là le but central, en fait. Déjà, et c'est tellement important de rendre visible une cause, puisque effectivement, on a maintenant le biais des réseaux sociaux qui nous permet de mettre en avant certaines problématiques, mais là, on ne touche pas le même public cible, en fait. Quand on va manifester dans la rue, il y a potentiellement une sorte de désordre public qui va mettre en péril un peu peut-être les forces de l'ordre ou bien mettre en péril les personnes qu'on va viser par cette manifestation. Typiquement, si j'en sais rien, si la manifestation d'aujourd'hui, on était allé à Berne, je sais pas, à la Confédération, ou enfin c'est des choses qui vont déranger sans forcément être violentes, bien évidemment. Et je pense que le droit de manifester, c'est tellement important parce que ouais, rien que pour la visibilité et pour tout ce que ça peut engendrer, la médiatisation après dans les débats publics, mm-hmm. ça permet de faire que qu'on discute de ce sujet, qu'on le remette sur la table, en fait. Mm-hmm. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la manifestation, comme d'usage public et comme nécessaire même, en mm-hmm. fait.
Alors en fait, je me suis un peu rendu compte que ma question était peut-être pas forcément bien formulée, dans le sens où le droit de manifester, c'est finalement une sorte de levier, d'outil politique, sociétal, et qui a pour but de faire, après on est d'accord ou pas d'accord, mais de faire bouger les choses à un certain moment. Là justement, on prend l'exemple justement de cette journée de mobilisation là, du 18 novembre. Le but quand même, c'est de faire, il me semble, c'est de faire comprendre au Conseil d'État qu'une partie de la population est en désaccord avec le plan de budget qui a été justement annoncé, il me semble, fin septembre, 25 septembre il me semble. Donc ça fait déjà quasiment un mois et demi que justement cette annonce a été faite. En fait, moi, la question que je me posais, c'était est-ce que les autres moyens politiques, parce qu'en Suisse, on a quand même des moyens politiques pour faire bouger les choses, pour les faire changer. Il y a quand même une implication citoyenne assez grande. Hein. Je parle de ça parce que je suis français à l'origine. Et en France, on a une culture du droit de manifester, de la manifestation qui est beaucoup plus utilisée et complètement différente qu'en Suisse. C'est-à-dire qu'après, voilà, on est d'accord ou pas d'accord avec ce point de vue. Mais en tout cas, en France, je trouve qu'il y a moins d'opportunités et de vrais leviers, en tout cas pour une personne lambda de la société civile, pour faire bouger les choses politiquement et au niveau de la société. Donc on a plus recours à ce système un peu de confrontation, de manifestation dans la rue. Et en fait, moi, la question que je me posais, c'était manifester, quelle est finalement la conséquence à cela? Est-ce que finalement, on peut espérer, par exemple dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, que justement via cette visibilisation de ce mécontentement, cette mobilisation, est-ce que vraiment ça va faire bouger les choses? Est-ce que ça va être pris en compte? Est-ce que le Conseil d'État va modifier son budget? Parce qu'il y a plusieurs moyens de faire bouger les choses. Ça peut être via des négociations, ça peut être via des référendums, ça peut être via plein de choses. Là, en l'occurrence, la manifestation, justement, elle vient de manière générale un peu se mettre en dernier recours, entre guillemets, quand toutes les options ont été un peu utilisées et pas forcément concluantes. Donc, ouais, justement, c'était un peu la question que je voulais un peu vous poser. Comment est-ce que vous imaginez que cette manifestation puisse déboucher sur une solution, entre guillemets, un peu concrète et un changement au niveau de ça? Mais ça peut être général, hein, je prends la journée d'aujourd'hui, mais le débat est plus large dans le sens où comment est-ce que la manifestation peut faire bouger les choses au point de vue politique, selon vous. Valentine, je crois que tu voulais intervenir.
Oui, je voulais intervenir, effectivement. Yes. C'est-à-dire que dans les prémices, en tout cas, de la manifestation, si je prends le cas de la France, pour le droit à l'IVG, le droit des femmes, le droit des travailleurs aussi, c'est sûr que, en tout cas, descendre dans la rue, ça a un impact quand même assez important que si tout le monde restait chez eux, alors là, le gouvernement ne verrait pas forcément qu'il y ait des personnes qui sont contraires aux politiques qui sont en train de faire passer. Car si personne ne se manifeste aussi, c'est un peu comme si personne n'était mécontent de ce qui se passait. Et donc le fait de descendre, le fait de dire que nous ne sommes pas contents, ça a quand même un impact politique pas moindre. Ce n'a pas... pas d'impact politique, mais ça a quand même un petit impact. Mais par contre, je viendrai sur le fait que, comme tu l'as dit, Paul, en Suisse, il y a vraiment cette chance de faire connaître ces décisions, mais via des initiatives populaires, via le vote des citoyens, un peu plusieurs fois par année. Donc oui, manifester, c'est important, mais il ne faut pas oublier non plus d'aller voter et tout ce qui se passe aussi autour du droit à la citoyenneté pour faire entendre sa voix.
Top, super. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, Léo ou
Charles. Ouais, éventuellement. Ouais, ce que je peux ajouter, c'est que moi, personnellement, j'ai l'impression que nous, les étudiants, on n'est pas pris au sérieux. C'est-à-dire que notre voix, elle compte pas autant que si c'était des travailleurs qui descendaient dans la rue ou quoi, parce que tout simplement...
je reviens juste sur ce que tu as dit. Ça, tu le ressens comment, le fait que ta voix, je dis de manière générale, les étudiants... soit pas forcément pris en compte.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup manifesté, mais par exemple, à l'EPFL, je sais qu'il y a eu des augmentations sur le prix de... sur le budget à l'année pour les étudiants étrangers.
Ouais, c'est assez énorme, d'ailleurs.
Qui a été multiplié par 3 pour les étudiants étrangers. Et je sais que nous, les étudiants, on a fait savoir par mail, en tout cas, notre mécontentement, les étudiants étrangers, en tout cas. Et ça a tout simplement été ignoré par l'administration. Et c'est vrai que ces sentiments qui me restent, moi, c'est que les étudiants, on n'est juste pas pris au sérieux par... dû à, je sais pas, peut-être notre jeune âge, notre manque d'expérience dans la vie professionnelle, ou je sais pas, mais voilà, c'est un sentiment que j'ai ouais, que nous, les étudiants, bah, notre voix, elle compte moins que d'autres personnes.
Ok, bah, c'est hyper intéressant comme feedback.
Ouais, ça
se défend, je pense que c'est aussi toute la volonté, justement, de l'essence même de manifester, c'est-à-dire on montre qu'on existe et qu'on fait, on veut revendiquer un message, quelque chose. Donc, Charlène ?
Si je peux juste me permettre d'ajouter quelque chose, c'est vraiment hyper intéressant l'exemple que tu as donné sur le mail, puisque ça montre effectivement qu'en fonction de la problématique, on va chercher un mode d'action spécifique qui va pouvoir amener des réponses en fait à la problématique. Et typiquement pour ta question sur l'importance de la manifestation en Suisse, ou en tout cas sa légitimité, parce qu'effectivement, comme l'a bien rappelé Valentine, il y a tout ce qui est d'initiative populaire qui peut être pertinent. Mais je pense que là, quand on veut des réponses assez rapides, l'initiative populaire, elle va nous prendre beaucoup trop de temps. Et pour ce qui est de ces initiatives, ça va être sur le long terme. Et pas pour des situations plus ou moins urgentes comme on l'a typiquement aujourd'hui. Et donc pour le mode d'action choisi, on veut une réponse le plus rapidement possible, donc la manifestation. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement la chose qui va être mobilisée aujourd'hui, puisque comme tu l'as dit, c'est un appel à la grève. Il y aura des assemblées, des ateliers participatifs aussi. Je sais qu'il y en a notamment sur le campus Géopolis. Aussi une, entre guillemets, bouffe populaire, donc un endroit où on va pouvoir manger ensemble et à prix libre. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont aussi rassembler et permettre d'avoir une certaine conscience collective, en fait, de la problématique et donc amener des potentielles réponses.
Ok, ouais, hyper intéressant. Effectivement, on l'a peut-être pas forcément mentionné, mais... ce mouvement de manifester, il s'accompagne aussi aujourd'hui d'une grève, dans le sens où voilà, on va mettre de côté son activité professionnelle pour aussi montrer un certain mécontentement. Une petite anecdote, mais par exemple, ce matin, je suis censé avoir un cours à l'UNIL et on a reçu un mail du coup hier de notre prof qui nous annonçait que il allait le faire en ligne parce que finalement, il avait appris que parmi les différents mouvements qui allaient avoir lieu sur l'UNIL, on allait empêcher les gens d'aller en classe. Donc du coup il s'est dit on va pas forcément prendre le risque. Pour ceux qui veulent suivre le cours, on va le faire en ligne. Je trouvais ça assez comique, quoi. Et puis comme quoi ça a des vraies conséquences finalement sur notre quotidien, quoi, en tant qu'étudiant. Mais hyper intéressant comme discussion. J'ai un peu fait le tour de ce débat autour de manifester, on peut passer à une petite musique, hein, pour clore ce débat, et puis on pourra revenir après pour vous dire un peu au revoir de manière globale avec toute l'équipe. On a une petite musique qui s'appelle Carolina Carol Bella de Rosalia de Souza. Petite dédicace à notre amie Francesca qui était censé venir aujourd'hui nous présenter des chroniques et qui n'est malheureusement pas pu venir. Voilà, c'était un petit son hommage un peu bossa nova, parce que la dernière fois, elle a dit qu'elle aime bien la bossa nova. Je me suis dit que c'était la bonne occasion de mettre un petit son brésilien. Carolina Coral Beza de Rosalia de Souza. Et c'était Carolina Carol Bella de Rosalia de Souza. Voilà, le Brésil, finalement, un peu le soleil pour terminer ce café kawa. Qui a été super, en tout cas de mon côté. Je sais pas comment vous ça s'est passé, les amis.
C'était trop cool, ça nous a bien réveillés.
Ouais.
On a passé un super moment et c'était cool.
Comme une petite dose de caféine, quoi, finalement. Et j'ai adoré le débat aussi. Je trouve qu'on en apprend aussi davantage l'un sur l'autre et c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce genre de débat qui peuvent aussi être clivants, en fait. Hein.
Donc, ouais, de ouf.
Donc trop bien.
Valentine, toi, ça s'est super bien passé à Tech. Enfin, j'ai l'impression, hein, de notre côté, c'était super, les lancements de musique et tout.
C'est hyper gentil, merci Paul, mais c'est parce que aussi vous avez bien donné de votre voix, donc ça a fluidifié la chose.
On a une super technicienne, c'était cool.
Ouais. Bravo à
merci,
tout
merci.
Le monde.
Bravo, oui. Bravo à tout le monde.
Bravo à tous. Café Kawa réussi de notre côté, franchement.
On est là.
Merci à tous. Et à la prochaine, finalement.
Merci, bye bye.
Allez, bye bye.
Les infos.
À l'international, en Ukraine, attaque massive sur Kiev, une centaine de drones et des missiles utilisés, et plusieurs morts et des quartiers ravagés. Les autorités parlent d'une opération calculée. Quant au climat, 2025 pourrait être la deuxième ou troisième année la plus chaude jamais mesurée, selon l'Organisation météorologique mondiale. On retourne en Suisse cette fois où l'économie est en net recul avec une baisse de 0,5% ce trimestre du PIB en cause des exportations en difficulté. Gaza, la trêve est fragile, le Hamas regagne du terrain et les négociations stagnent. Quant à la diplomatie, l'Afrique du Sud accueillera le prochain G20 axé sur la dette, l'énergie et la coopération.
Fréquence banane, la météo.
Aujourd'hui, le temps sera généralement ensoleillé entre Lausanne et Genève. Quelques bandes de stratus pourront persister le long des Préalpes avec une limite pluie-neige supérieure autour de 1200 mètres. En plaine, les températures iront de 0 à 3 degrés au réveil pour atteindre environ 6 degrés cet après-midi. La bise soufflera modérément en début de journée puis se calmera progressivement. Demain mercredi, le soleil restera présent mais accompagné de quelques passages nuageux et de bancs de brouillard le matin, cette fois limité vers 600 mètres. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera par l'ouest, annonçant quelques précipitations en soirée et dans la nuit, avec une limite pluie-neige autour de 600 mètres puis s'abaissant jusqu'en plaine. Température de moins 2 degrés le matin, et 6 degrés l'après-midi. C'était votre flash info.